Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Eh ben c'est bon, je crois que tout est bon, tout est prêt. Je vais mettre qu'une seule oreillette. Salut Renel, comment ça va ?
Ça va très bien, merci. Et toi, bienvenue à la maison.
Mais merci beaucoup pour ton accueil super chaleureux. Ça fait une grosse demi-heure qu'on rigole, qu'on parle un peu de tout de la vie. Je suis très heureux ce matin parce que quand je me suis levé, tu sais, j'ai un petit carnet de gratitude et j'ai noté. Je suis content parce qu'aujourd'hui, je vais rencontrer une fille qui a l'air très heureuse en ce moment et très épanouie. Et je sais à quel point c'est contagieux le bonheur et le fait d'être heureux, donc je suis très reconnaissant. Voilà, merci beaucoup pour ce moment privilégié que tu m'accordes.
C'est gentil, merci à toi.
C'est vrai, je me tombe pas trop. Tu touches le bonheur en ce moment.
J'ai trop de chance, ouais. Mais je pense que je suis de nature heureuse quand même. Et là, ouais. J'ai jamais été aussi heureuse, je pense.
Ah bon, bah
cool. Je le répète tout le temps, ouais.
Bon, on se rencontre au bon moment alors.
Oui, exactement.
Et bah comme je te le disais, il y a une question traditionnelle sur le podcast, c'est mon biais de papa, je commence toujours par l'enfance, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Quoi qu'il arrive, ce sera pas bien glorieux, mais je me souviens que je testais un petit peu toutes les disciplines de l'athlé parce que je savais pas ce que je pouvais faire en athlétisme. Donc là, j'étais au collège.
Okay.
Et j'avais fait une séance de saut en hauteur. Et ça m'a marqué parce que j'ai sauté qu'une fois. J'ai sauté à côté du tapis en diagonale parce qu'il fallait sauter en diagonale. Et je crois que je me suis vraiment fait très mal au petit doigt. Et ça m'a suivi des semaines et j'ai jamais ressauté en hauteur.
Voilà. C'est vrai?
Non, jamais. Même pas en compète. J'aurais pu essayer, mais je garde un traumatisme un peu de cette épreuve.
Oh, c'est incroyable cette histoire. Et ouais, parce que quand on est petit, on touche un peu à tout, fait un peu du saut en longueur, du lancer de poids.
Ouais.
Il y a eu d'autres catastrophes sur d'autres sports.
oui. Je m'inscrivais sur. À l'époque, c'était des je crois une sorte de triathlon. Il fallait faire 3 épreuves.
Ouais,
et
ouais.
La dernière épreuve, c'était le 1000 mètres. En général, c'était mon épreuve favorite. Et j'avais fait le lancer de poids. J'avais été obligée de le faire. Et il y a un coach qui... Il y a un entraîneur qui est venu me voir qui m'a dit « S'il te plaît, ça fait quelques temps qu'on te voit faire les concours. Arrête tout et fais que de la course, s'il te plaît. » Et après ça, je suis entrée en sport études.
Ok, d'accord. Ouais. Ah ouais, direct après ça?
Bah, c'était la saison juste avant que je sois acceptée en sport études, ouais.
Ok. Ça marche. Et comment ça se fait que t'es tombée dans l'athlé? C'est tes parents qui voulaient? C'est toi qui voulais? Comment c'est arrivé par hasard?
Mon père était cycliste et il a failli être pro, mais il a été repéré à l'âge de 26 ans, donc déjà bien trop tard pour être intégré dans une équipe élite.
Ouais.
Donc ça a été un peu la souffrance de sa vie, je crois.
Une petite névrose.
Ouais, non mais vraiment. Et quand on était petit, pour mes parents, c'était essentiel de faire du sport.
Ouais.
Et puis, comme je gagnais ou je faisais souvent des podiums sur les crosses du collège, un jour, on m'a emmené sur... Enfin, le prof d'EPS avait insisté pour que j'arrive sur une piste.
Ok.
Et donc, un jour, mon père m'a emmené sur une piste sans me dire où on allait parce que j'étais un petit peu rebelle, je pense. J'aurais peut-être pas voulu y aller.
Ouais, puis le papa en plus.
C'est ça. Et puis, je suis arrivée, je me suis fait des amis et tout est allé super vite, en fait.
Ok, ouais. Et ouais, donc bonne ambiance dans le club Netley tout de suite et ça t'a plu, quoi.
Bonne ambiance tout de suite et je me suis rendu compte quand même que j'avais quelques qualités en course et j'ai toujours adoré gagner.
Ouais.
Et puis même ce professeur, il croyait vraiment et très vite il m'a parlé d'un sport-études avec l'internat. Moi à l'époque, je partais souvent en colonie de vacances.
OK.
Et quand j'ai entendu internat, je me suis dit "Oh, pourquoi pas, je connais rien à l'athlé, mais partir de chez mes parents à 14 ans pour aller à l'internat, ça me branchait à fond."
OK.
Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire du sport sans vraiment avoir de projet de très haut niveau, hein, vraiment.
Ouais.
J'étais contente de quitter la maison, d'aller à l'internat, de vivre une expérience hors du commun parce que moi je venais de la campagne, d'une petite campagne et j'avais pas forcément de perspective sur le plus long terme. Ouais.
C'est marrant parce que tu vois, j'ai rencontré beaucoup d'athlètes qui vont dire oui, c'est difficile quand t'es jeune de partir au Krebs ou de partir à l'INSEP, il y a une rupture avec les parents. Souvent en plus, bon, quand on analyse et qu'on fait un peu de psychologie, on se dit en fait, c'est peut-être un peu la douleur des parents qui est un peu transposée, tu vois, sur les enfants. Et toi, t'as l'air d'avoir vécu ça super bien, genre nouveau défi, nouvelle vie, trop bien. Bon, peut-être après c'est avec le recul et le biais de...
Non, même dans l'instant, je l'avais vécu comme ça. Je voulais, quand j'ai su qu'il y avait cette opportunité de quitter la maison, j'étais vraiment trop contente de partir. Mes parents étaient très très stricts et on était dans un petit village paumé, donc je voyais pas beaucoup de monde et j'adorais partir en colo pendant les vacances parce que mon père travaillait dans une société où il y avait un super comité d'entreprise, donc on nous envoyait tout le temps en vacances et c'était les seules fois où je rencontrais du monde et j'adorais rencontrer du monde. Ouais. Donc c'était vraiment c'était super excitant pour moi de partir à l'internat.
Bon ouais, trop cool. Et t'as dit que t'aimais bien gagner. Est-ce que t'aimais bien gagner ou est-ce que t'étais mauvaise perdante ou est-ce que t'étais très compétitrice surtout?
Bah, je pense que je suis très 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 mauvaise perdante. Je déteste perdre, mais j'adore gagner et en fait j'adore gagner après avoir perdu par exemple parce que. J'adore vanner, je suis taquine en fait.
Ouais.
Donc quand j'étais petite, si je perdais, j'étais pas contente, mais une fois que je gagnais après,
tu te rattrapais, tu te vengeais.
Je me rattrapais, oui.
Ok, d'accord. Ouais. Et ouais, pas forcément. Est-ce que t'avais l'esprit de compétition, tu vois?
Toujours.
Ouais.
Surtout dans les domaines où je savais que j'avais quelque chose à faire. Par exemple, en art plastique, Il fallait toujours que j'ai la meilleure note de la classe, mais c'était la seule matière où je pouvais l'avoir.
Ça, tu dessinais bien ou...
C'est pas que je dessinais bien, mais je prenais ça très au sérieux parce que pour moi, c'était une manière de grappiller des points puisque j'étais pas forcément une très bonne élève. Okay. Et ça me tenait à cœur parce que j'aimais ça, mais je sais pas si j'étais très très bonne en dessin. Donc.
Tu les as gardés, tes dessins de l'époque?
Ils sont chez mes parents, ouais, j'en ai gardé.
Ok. Tu les as revus ou...
Non, je rentre pas souvent à la maison, mais j'ai pas trop cherché après. Non.
Ok. Bon, c'est peut-être un petit truc pour plus tard. Ouais. Tiens, je coupe la caméra, comme ça on sera.
C'est horrible, j'ai les mains moites, j'arrête pas de changer de main.
Ben, c'est pas grave. C'est pas grave, t'inquiète. Mets-toi à l'aise. Hop. On éteint tout ça. Mais ok, trop marrant, je savais pas du tout ça de toi. Et t'as toujours été première en cross du collège, aux premières courses que tu faisais et tout?
Non. J'ai toujours été sur le podium dans le cross du collège. Et d'ailleurs, moi, je faisais un peu partie des bolos. Enfin, je suis désolée de parler comme ça, mais c'est comme ça qu'on appelait ça à l'école. Ouais. Mais j'étais pas populaire, quoi. Et le cross, c'était le seul moment de l'année où je pouvais un peu avoir un petit moment de popularité. Donc, okay. C'était quelque chose que je prenais très à cœur. Et j'avais fait...
Tu voulais être populaire?
Non, je voulais pas être populaire, mais je me sentais menacée parfois. Enfin, il fallait pas faire de vagues parce que je sentais que je me sentais différente.
Ouais.
Mais je voulais pas être victimisée, quoi. Je voulais pas être une victime à l'école, ça c'est sûr. Okay. Et c'était rude, hein. Je trouvais.
Ouais, c'est violent. Hein.
C'est violent le collège, ouais.
Moi aussi, j'ai eu quelques traumatismes et tout, et je sais que je sais pas si je me sentirais j'en parle très librement, mais ouais, j'ai eu quelques traumas au collège. Et c'est violent à quel point les enfants sont durs.
Ah ouais.
Ma réflexion un peu du moment, c'est de me dire ce qui est très dur, c'est que tu vois les enfants se font accepter et réussissent en étant dans le moule, en étant dans le groupe, et plus tard, on se rend compte que ceux qui réussissent ou ceux qui sont vraiment épanouis, c'est ceux qui assument leur différence ou ceux qui assument leur unicité entre guillemets.
Ouais.
Alors que au collège, on n'accepte pas trop les enfants qui sont un peu différents ou qui sont un peu uniques, quoi. Donc ça a dû être un peu dur. Tu te fais un peu cette réflexion là aussi ou?
Ouais, mais justement, moi, j'ai compris assez vite que le sport, ça pouvait être quelque chose. Je pouvais être dans cette catégorie là, ça me rassurait aussi. Parce que si j'avais pas eu ça, je pense que... Bon, j'avais quand même un fort tempérament. Mais je pense que ça aurait pu être plus compliqué, quoi.
Ok. Et à part le dessin, ouais, il y avait aucune autre matière où ça marchait?
Non, c'était une case. Franchement, je sauvais les meubles parce que c'était le niveau collège et je travaillais quand même pour avoir une moyenne correcte. Mais j'ai jamais fait partie des meilleurs. Et si je relâchais, j'avais des mauvaises notes, quoi.
Et c'est quoi, ça te plaisait pas?
Je détestais l'école.
C'est le format.
Je sais que quand j'étais au collège, ça m'arrivait de compter mes années d'études, savoir combien de temps il me restait d'école encore. Okay. Je comptais vraiment, c'était horrible de se réveiller tôt le matin, de savoir que j'allais passer ma journée assise sur une chaise. Ouais, vraiment, c'était même le lycée, j'ai trouvé ça. En fait, j'ai pas aimé ma scolarité du tout.
C'est marrant que tu me dises ça parce que mon plus grand rêve d'entrepreneur, on va dire, ou de visionnaire entre guillemets, ça serait de recréer l'école. Et si je pouvais réinventer l'école et recréer une école dans laquelle on soit beaucoup moins formé, on soit beaucoup moins enfermé, pardon, beaucoup plus qu'il y a de l'apprentissage, beaucoup plus par le jeu, beaucoup plus par la liberté aussi. Et qu'on développe aussi beaucoup plus toutes nos intelligences. Mmh. On parlait juste avant du test des intelligences multiples. Mmh. Et en fait, on se rend compte que à l'école, on travaille que une ou deux, voire trois, quatre de nos intelligences. Mmh. Mais qu'il y en a plein qu'on travaille pas, tu vois.
Ouais.
On n'essaie pas de nous faire travailler la communication entre élèves, ou de nous faire comprendre nos émotions, ou de nous apprendre ce que c'est que l'amour, de nous apprendre ce que c'est que l'amitié. On n'essaie pas aussi de nous faire beaucoup de travaux manuels, tu vois, il y en a très très peu, alors que c'est des choses qui font partie de nos super pouvoirs, on va dire.
Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout que, ouais, là, quand je t'entends parler, je me rends compte qu'à l'école, on m'a fait travailler toutes les intelligences que j'avais pas forcément. C'est exactement ça. Voilà. C'est comme ça que je justifie mon échec scolaire maintenant.
Non, non, mais c'est, moi, ça m'étonne pas du tout parce que c'est, ça correspond pas du tout à tout le monde et le fait que tu comptes les jours et tout, c'est marrant parce que moi, j'étais un peu pareil, quoi. C'était dur de se lever le matin et j'attendais qu'une chose, c'était le soir où j'allais pouvoir jouer au tennis. Ouais. De quitter l'école un tout petit peu avant tout le monde parce que j'avais ce petit droit privilégié par rapport aux autres de ma classe parce que j'étais en horaire aménagé, quoi. Mais sinon, le matin, c'était l'enfer, quoi. Ouais. Passer de 8h à midi.
Et je trouve que c'est hyper culpabilisant, le système scolaire. Soit on est bon et on est reconnu par les profs, soit voilà, on est mauvais et
on
n'a pas
quoi.
D'avenir, quoi.
Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans l'athlé, hormis le fait que tu gagnes? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que c'est les sensations? Est-ce que c'est le goût du sang à la fin d'un 1000 mètres? Est-ce que c'est le sang qui te brûle un peu dans les jambes? Est-ce que les copains, il y a d'autres choses qui te plaisent dans le sport, hormis le fait de gagner?
Déjà, c'est sûr que j'adore vraiment gagner et je sais que je peux me mettre dans tous ces états en pensant à une potentielle victoire, par exemple. Mais j'aime aussi l'effort quand je suis dans un état de forme, un bon état de forme. Il n'y a rien de plus agréable que de faire une séance, une très très bonne séance dans mon corps de compète, quoi.
Ouais.
Sauf que ce corps de compétition, je l'ai que 2 ou 3 mois dans l'année. J'ai l'impression de le chercher tout le restant de l'année.
Ouais.
Mais j'adore ça.
Mais c'est hyper dur, je trouve. Ton sport, tu vois, je voulais t'amener un peu sur ce sujet-là, mais t'as un sport où, en tout cas, qui est réputé par les gens qui font de la course à pied ou les gens qui font de l'athlé, d'être le plus dur. D'avoir la sensation psychologique, sensorielle, que c'est vraiment la plus dure. Toi, tu m'as dit que tu t'en rendais pas trop compte de cette difficulté.
Je m'en rends pas compte, mais je pense que j'ai toujours eu cet état d'esprit. J'ai l'impression que le 800, c'est vraiment au-delà de la discipline en elle-même, c'est un état d'esprit.
Ouais.
Et ce truc un peu borderline, un peu presque à la limite de la folie, presque.
Ouais.
C'est un truc que j'ai en moi, donc je me rends pas compte que c'est dur parce que j'adore ce truc de douleur, j'adore souffrir de manière générale, j'ai pas de problème à me faire mal.
Ok.
Donc peut-être que pour d'autres personnes qui sont moins dans ce délire-là, dans ce trip, ça peut paraître extrêmement difficile.
Ouais.
Mais je pense que cette douleur, on y prend goût.
Ouais.
C'est bizarre de dire ça, mais je sais pas, il y a presque un truc de transe.
Ouais. Il y a une addiction un peu aux émotions que tu ressens.
L'adrénaline, je pense.
L'adrénaline.
De la compète, le stress.
Tout joue très
vite. Et puis
vite,
ce truc de tu vas vite, c'est dur, mais ça avance quand même. Et d'aller puiser au plus profond de soi et de son âme carrément. C'est vrai, hein, je sais pas, ce serait presque... C'est un peu bizarre comme métaphore, mais ce serait presque, je sais pas, j'ai jamais accouché, mais c'est peut-être un 800 mètres, une dernière ligne droite de 800 mètres, ça doit ressembler aux dernières minutes d'un accouchement, je pense. Il y a le bébé, c'est le chrono pour l'image. Mais il y a un truc comme ça.
Des mamans qui vont nous écrire, qui vont nous dire, okay. Les gars, pas trop, hein.
Non, mais il y a ce truc de créativité aussi. On crée un chrono, on crée une performance dans l'effort et à la fin, ça fait un truc magnifique, il y a une émotion immense. C'est génial, quoi.
Ouais. Et tu penses à tout ça pendant que tu cours? Tu penses à quoi, d'ailleurs?
Je suis vraiment dans l'instant et ça, je l'ai appris en travail psy.
Ouais.
Parce que j'ai déjà eu le problème de penser trop à tout ce que j'avais à faire avant de passer la ligne d'arrivée et ça me mettait une angoisse pas possible et du coup je passais à côté de mes courses.
Okay.
Donc là pour être compétent, faut penser à l'instant T.
OK.
Mais vraiment, hein. Voilà, je suis en train de faire ça va, je fais ci, je fais ça, je pense qu'à ça, je pense à rien d'autre. Quand je pense à autre chose, souvent ça marche pas.
OK.
Mais ça arrive.
Ouais, ça peut arriver, ouais, c'est dur d'être dans l'instant. Et t'arrives à te conditionner un peu avant pour te dire, ok, l'instant c'est maintenant et t'as un petit processus, une petite recette pour y arriver.
C'est des choses que j'ai appris en prépa mentale avec ma psychologue. Dès qu'il y a des idées négatives, de les rejeter tout de suite et de se concentrer sur ce que j'ai à faire.
Ouais.
Okay. Ça, c'est vraiment la méthode. Mais de toute façon, ça se fait assez naturellement parce que les compétitions auxquelles je participe, souvent, il y a énormément de niveaux et de densité.
Ouais.
Donc, on peut pas se permettre de pas être dans l'instant parce qu'on sait qu'on va être rattrapé par par la réalité, sinon.
Ouais.
Ok. De l'instant.
Ouais. Et ok, c'est hyper intéressant. Et comment tu peux, tu vois, moi, ce que j'aime beaucoup chez toi et dans ta manière de courir, c'est que effectivement, t'as parlé d'accouchement. Et on sent que toi, il y a des émotions qui te traversent quand tu cours.
Ah
vraiment.
Ouais.
Autant il y en a peut-être certains, tu vois, il y a peut-être certains coureurs, certaines coureuses. Alors aussi c'est peut-être aussi tu vois, il y a différentes origines, différents faciès, différentes de façons d'exprimer la douleur ou quoi, et je pense que tu vois, il y a certains visages qui sont moins expressifs. Toi, quand tu cours, ton visage, il laisse transparaître que tu t'arraches quoi, que tu vas jusqu'au bout. Il y a vraiment, je sais pas si tu l'as remarqué, mais il y a vraiment un switch. Il y a vraiment un moment où tu changes de visage. Est-ce qu'il y a un switch aussi dans ta tête? D'ailleurs, je mettrai des vidéos de peut-être
bon,
de.
C'est drôle que t'aies remarqué ça parce que mon coach me l'a dit. Et là, on travaille là-dessus sur les expressions de mon visage quand je cours parce que c'est de l'énergie que je perds que je pourrais mettre pour la performance du relâchement. Bah, c'est ce que mon coach pense. Que si j'étais plus relâchée au niveau de mon visage, ce serait moins de fatigue dans mes bras, par exemple, et donc on essaie de retarder. Et je pense que je manque beaucoup de confiance en moi, et peut-être que c'est le doute qui fait que je me laisse peut-être aller à la douleur et qu'on puisse voir. Parce que je doute, mais en même temps, je me dis non, on y va. Enfin, c'est un peu un.
Bah, tu te bats contre le doute.
Je me
quoi.
Bats contre moi-même, contre mes doutes et contre l'effort, quoi. C'est intense, quoi. C'est plein de choses qui se mélangent en même temps. Et c'est vrai que tu me demandais si je pensais à quelque chose. Donc, je pense à l'instant T, mais je suis en train de me dire, est-ce que je suis capable de le faire? Oui, c'est possible. Non, c'est pas possible. Enfin, c'est plein d'idées en même temps.
Ouais. Le flow vient pas.
Bah, par contre, quand le flow est là, ça m'est arrivé pas souvent, mais là, c'est magnifique, quoi. Il n'y a pas ce truc. Et justement, bon, les seules courses où j'ai ressenti ça, bah, il n'y a même pas d'expression faciale.
Ok, sur ton dernier RP par exemple ou...
Ah non, alors là c'était pas le flow.
Non, parce que justement là, tu sais, je me demandais parce que là tu terminais vraiment
c'était chaud là.
Ouais, on sent que t'as tout donné quoi. T'as vraiment donné
Bah, j'ai mal couru et puis d'ailleurs je l'ai pas montré mais j'étais extrêmement triste après cette course parce que je savais que j'aurais pu faire beaucoup mieux et que j'ai manqué de confiance en moi et donc je suis passée à côté de l'effort. Donc je bats mon record, mais je savais que je pouvais me faire mieux que ça. Et ça se retrouve aussi dans mon positionnement dans la course, c'est que tout le monde me dit toujours que je cours à l'extérieur. Mais c'est juste que j'ai beaucoup de mal à m'imposer face à mes adversaires parce que j'ai mis du temps avant d'intégrer que j'avais ma place à ce niveau-là.
Ok.
Mais ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on a vues en travail psy. Là, j'ai l'impression de... Je balance tout ce que j'ai au fond de mon âme. Du fond
de
mon âme.
Mais non, mais merci de ta transparence parce que tu vois, c'est hyper dur d'en parler de tout ça, tu vois Et bon, moi je pense toujours que quand on a un petit blocage émotionnel ou un petit blocage spirituel à passer, il faut en parler pour le débloquer en fait. Et que si t'en parles pas, tu peux pas le passer. Tu vois, si tu gardes ce petit doute à l'intérieur de toi et cette petite peur à l'intérieur de toi, je pense que tu peux jamais y arriver. Bon, c'est ma conviction.
Oui.
Peut-être que je me trompe. Mais bravo, tu vois, de dire ça, Là, t'as dit, ouais, je manque de confiance en moi, j'ai du doute et tout. Enfin, tu restes quand même une des meilleures coureuses mondiales sur une des disciplines les plus dures, avec un RP de ouf, quoi. Enfin, la meilleure française aussi, tu vois. Je sais pas, je suis pas un pro des chiffres, tu vois, par rapport à première européenne, machin. Mais ça donne pas confiance en soi, tout ça, de prendre un peu de recul et de se dire...
Ce qui, non.
Mine de rien.
Bah, ce qui donne confiance en soi, c'est souvent les échecs, parce que, par exemple, aux Jeux Olympiques, j'y suis allée, mais je croyais pas vraiment en moi, en fait. C'était trop le domaine du rêve. La médaille, elle était pas devenue vraiment possible pour moi. Je l'avais pas intégrée. Pourtant, mon entraîneur le sentait que j'étais capable de faire une médaille ou, enfin, peut-être pas une médaille, mais au moins un top 5. Enfin, il y croyait vraiment. C'était possible, quoi. Mais moi, j'y croyais pas assez. Et c'est vrai qu'en sortant en demi, je me suis dit, bah, en fait, c'est ça ce que j'ai fait. Bah, je l'ai fait plein de fois. C'était possible, mais juste, j'y ai pas cru. Pas assez, en tout cas. Mais il y a tellement de densité. Donc quand je me dis un peu pourquoi moi j'aurais cette chance en fait, il y a un facteur chance aussi, il faut que tout soit aligné au bon moment parce que tout le monde a presque le même niveau. Il y en a quelques-unes qui se détachent devant, mais on a toutes le même niveau et on a toutes envie d'y arriver. Mais j'avais tellement envie d'y arriver que j'avais tellement peur de pas y arriver que finalement, bah, j'y suis pas arrivée.
C'est vrai, ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Et quand tu dis que tu l'avais pas assez matérialisé, concrétisé, tu dis que c'est venu tard. C'est parce que, bon, t'es arrivé un petit peu en retard sur ta prépa, il y a eu une année rocambolesque, hein, tu vois, enfin, qu'on se dise, avec, plein de chamboulements, des athlètes qui étaient contents, d'autres qui étaient beaucoup moins contents et tout. Mais au final, enfin, tout le monde est passé par là, quoi, tu vois.
Oui, bien sûr. Après, j'ai toujours ce problème de confiance en soi. Et puis, je me suis entraînée pendant 12 ans à Fontainebleau avec un entraîneur. Ouais. Et avec ce coach-là, moi, j'étais persuadée de pas avoir de talent et que seul le travail de cette personne-là pouvait me faire accéder au très haut niveau. Donc pour moi, c'était que cet entraîneur-là qui pouvait... Pour moi, j'avais pas de talent, j'avais pas de qualité, c'était que le travail. Et quand j'ai changé d'entraîneur, je me suis dit, bon, je vais changer de coach, mais est-ce que j'ai vraiment du talent? Est-ce que le travail de cet entraîneur sera à la hauteur? Et ce coach-là, il m'a fait vraiment reprendre confiance en moi.
Okay.
Et il m'a dit, mais si, t'as du talent et on va faire, enfin, t'as vraiment du talent et on va travailler ensemble. Et donc, je me suis entraînée pendant un an en me disant, est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais me qualifier? Si ça se trouve, ma carrière est terminée. Je me suis aussi réinscrite à la fac en me disant que peut-être que ma carrière était terminée si je faisais pas les Jeux Olympiques. Enfin, vraiment, c'était beaucoup de remises en question. Mais le coach avait vraiment confiance en moi et je lui ai fait confiance dans son travail. Et puis, il y a eu cette course-là où je me qualifie pour les Jeux Olympiques. Et donc là, à ce moment-là, ça faisait 2 ans que j'avais pas fait moins de 2 minutes. Donc, ça faisait 2 ans que j'avais pas eu le niveau olympique.
Oh, ouais, ouais.
Et à ce moment-là, c'est là que je me suis dit, waouh, mais en fait, si, j'ai du talent et c'est possible.
Ouais.
Et sauf que c'était à 3 mois des Jeux Olympiques. Donc, avant de faire mûrir le truc, de vraiment croire en soi et en son projet, ça a mis trop de temps. Et c'était trop juste avant les Jeux.
Ok. J'ai l'impression que tu as beaucoup appris sur ces derniers Jeux et sur cette période où justement, peut-être que tu as été... Enfin, je pense que tu as été super bien accompagné ou que tu as aussi la maturité, tu vois, ça fait grandir. J'ai l'impression que tu en as tiré beaucoup de bonnes choses, tu vois, de ce que peut-être certains pourraient voir comme un échec, tu vois, pour dire le mot, tu vois. Toi, j'ai l'impression que tu l'as vraiment vécu comme un apprentissage ou comme quelque chose de... qui t'a fait grandir, tu vois, et peut-être pas en tant qu'athlète, mais en tant que femme humaine, tu vois, c'est un peu ça ou je me trompe?
Bah, oui, bien sûr, mais après ça c'est surtout grâce, vraiment ça je le dois à ma psychologue parce que on a fait tellement de chemin ensemble, j'ai l'impression d'être devenue adulte aussi grâce à cette psy. Non, mais parce que vraiment j'étais bah à cause de mon manque de confiance et je pense que j'arrivais pas à m'émanciper, à prendre mes décisions. J'ai rencontré un entraîneur à Fontainebleau qui choisissait beaucoup pour moi et et donc de prendre mes décisions, ça a été vraiment un tournant pour moi de dire non, bah je veux plus de ça et je veux m'entraîner ailleurs. Rien que ça, c'était une libération pour moi de me dire que je pouvais prendre mes décisions moi-même. Et assumer ses choix quand c'est les siens, c'est plus facile que quand on nous guide ou quand on nous amène à d'autres choses, quoi.
Ouais. Mais en tout cas, bravo d'avoir fait cette transition parce que j'imagine à quel point ça doit être dur, tu vois, tu disais, ça faisait 8 ans que tu travaillais.
12 ans.
Tu vois, d'en parler, de prendre cette décision-là, te dire, il faut un nouveau départ et tout. C'est, waouh, tu vois, c'est hyper compliqué, tu vois. C'est comme si tu disais, papa, maman, je m'en vais.
Ouais, bah en plus j'ai eu l'impression de grandir à Fontainebleau aussi. Je suis arrivée à 14 ans. 14 ans, c'est petit. Ouais. Je suis arrivée à 14 ans, ouais.
Et ouais, donc tu redémarrais un peu ta vie, quoi. Aussi.
J'ai l'impression de prendre un nouveau départ radical.
Et c'était nécessaire, tu vois, pour
sinon j'arrêtais le sport de haut niveau.
Ah ouais.
Ouais.
Ok.
Je me retrouvais plus. J'avais l'impression d'aller au travail. J'avais perdu vraiment le goût de la... Enfin, j'avais perdu la passion de la compète.
Ouais, ok. Ah ouais, donc c'était vraiment morose, quoi.
Oui, vraiment.
Waouh. Bah écoute, félicitations. Tu vois, tout à l'heure, on se disait en antenne que des fois on est obligé un peu d'arriver un peu bas pour rebondir encore plus fort et tout. J'ai l'impression que c'est un peu le cas pour toi. Et en tout cas aujourd'hui, t'as commencé l'interview en disant je suis très très heureuse aujourd'hui. Donc c'est quoi ta recette du bonheur aujourd'hui?
Bah, je pense que de s'écouter soi, de bien s'entourer. Et voilà, surtout ça, je trouve que d'écouter la voix qu'on a au fond de nous qui nous dit, qui nous guide, quoi, parce que je pense que quand on va à contre-courant de ça, ça se passe jamais super bien, quoi. Faut vraiment, écouter ce dont on a vraiment envie, soi-même.
Et ton toi-même, là, il te dit quoi en ce moment? Si c'est pas trop.
Bah, moi-même,
dis-moi.
Il me dit profite de tes années d'athlée à fond parce que j'ai déjà 28 ans et voilà, profite à fond et prends tout ce que t'as à prendre en expérience, en moments, en voyage. Voilà, je profite vraiment de chaque instant parce que j'ai la chance d'avoir trouvé un équilibre dans ma pratique du sport qui me rend super heureuse.
T'as envie de savourer le voyage, quoi.
Ah, vraiment, ouais. Et puis, je me suis rendu compte surtout que les médailles, c'est important, c'est cool, parce que c'est un objectif. Mais il y a tellement de choses magnifiques sur le chemin et c'est dommage de passer à côté.
Ouais.
Puis surtout que il y a quand même très peu de médaillés finalement par rapport au nombre de sportifs qui se présentent sur une compétition.
Ouais, c'est dingue.
Et je trouve ça dommage de tout bâcler, tout le travail qui a été fait juste parce qu'il n'y a pas eu de médaille alors qu'il y a eu d'autres bons moments.
Ouais. Mais c'est pour ça que en plus je trouve que t'es sur un sport d'autant plus ingrat, c'est que bon, vous avez des meetings, mais grosso modo vous avez 2-3 grosses échéances par saison. Vous êtes 32 au jeu à être
sélectionné, je crois même plus, peut-être 40, une quarantaine d'athlètes je crois.
Parce que t'as la finale où vous êtes 8, les demi où vous êtes 16.
Non, mais moi c'est 8-8-8 à chaque. Oui, ah oui, voilà, oui.
Tu vois, du coup vous êtes 16. Et après, et du coup, 32.
Ouais, je me demande si c'est pas un peu plus, quand même.
Peut-être, ouais. Peut-être possible. Mais, vous êtes les 32 meilleurs mondiaux, et il y en a que 3 qui sont récompensés à la fin.
Bah oui, c'est pas normal s'il y en a que 3 qui sont contentes, en fait.
Mais moi aussi, j'ai le droit d'être contente. Voyons, attends, moi aussi, je veux la médaille en chocolat. Non, mais c'est vrai, quoi. Franchement, c'est hyper dur. Le sport, je trouve, c'est hyper méchant pour ça. C'est hyper mesquin, et même, je comprends que des gens explosent en vol dans le sport parce que tu vois toujours, voilà, il y a que les 3 premiers et c'est hyper ingrat alors que, enfin, tu t'es quand même au sommet du sport, tu t'entraînes quand même tous les jours. Au final, enfin, tu vois, c'est quoi la différence entre la 40e et la première? Enfin, leur entraînement c'est le même, enfin tu vois, ou leur quotidien il doit être assez similaire. Peut-être la première elle est un peu plus de sponsors et un peu plus de vie médiatique, mais sportivement le programme il est assez similaire, je pense.
Ouais, j'imagine que c'est la même douleur au niveau des entraînements, certainement le même investissement. Ouais, c'est pas, mais c'est drôle parce que moi je pensais toujours ça sert à, enfin s'il y a pas de médaille, enfin je pensais vraiment que j'ai un peu honte de dire ça, mais ma valeur perso, si j'étais très performante, voilà, donc j'avais l'impression de valoir quelque chose. Je mélangeais tout en fait. Ouais. Et je pense que c'est aussi une tendance qu'il y a dans ce sport, c'est que je trouve que les athlètes de très haut niveau médaillés parfois ont le droit à beaucoup plus de respect qu'à d'autres athlètes qui se sont investis de la même manière. Enfin, c'est super violent, je trouve.
Ouais, c'est violent, ouais.
Mais même moi, j'ai déjà été médaillée au niveau européen, c'est pas non plus extraordinaire, mais je sens que le regard était pas le même que quand je traversais des moments extrêmement difficiles alors que j'étais la même personne. Et c'est ça que je trouve très violent, ouais, dans le milieu du sport.
Ouais.
Peut-être que c'est la même chose dans tous les milieux d'ailleurs, mais
On vous juge d'autant plus par rapport à votre degré de performance, quoi.
Oui,
c'est
oui,
sûr.
Bien sûr, ouais.
Ouais, et ça c'est violent parce que on est qui on est et on maîtrise pas tout, tu vois. Tu peux être, l'exemple qui pourrait un peu parler, c'est peut-être un tennisman qui aurait vécu les grandes années de Federer ou Nadal et Djokovic qui gagnent tout. Mm. Bah bon, bah quand t'es le quatrième, t'es peut-être un joueur exceptionnel, ouais. Tu vas grappiller quelques tournois. Mm. Mais dans 50 ans, on t'aura oublié, tu vois. Enfin, mm. c'est triste, mais même moi, je suis violent dans mes paroles, là, c'est pas gentil. Mais,
mais bah, c'est une réalité. Hein.
C'est un peu une réalité, tu vois, et on se souvient un peu que des premiers, alors que.
Ouais.
Que tous ont fait exactement le même investissement, quoi.
Bon, après, je pense quand même, tu vois, je vois un Kevin Mayer, c'est extraordinaire la manière dont enfin, j'ai l'impression qu'il a livré sa vie au décathlon, mais vraiment.
Ouais.
Et moi, j'ai besoin d'avoir un équilibre qui me raccroche à, j'ai besoin de me sentir dans la réalité des autres personnes que je côtoie, quoi.
Ouais.
Donc c'est vrai que peut-être aussi que je peux m'en vouloir de pas ramener une médaille à cause de ça parce que j'ai pas ce même je parle pas d'investissement mais ce même j'ai pas livré toute mon âme ou toute ma vie aux 800 mètres. Je me suis gardé aussi une part de vie normale aussi.
Ouais, mais est-ce que toi qui vois une psy et qui fait un peu ce voyage spirituel là, est-ce que ce qui compte, c'est pas plus, tu vois, le chemin et d'être heureuse dans le chemin que toi, t'as l'air d'avoir trouvé un équilibre. Mmh. Si Kevin, il a trouvé son équilibre de Bien cette sûr. Manière-là, tu vois, et qu'il arrive à le faire, tant mieux. Et on pense d'ailleurs que la seule recette pour être heureux dans le sport, c'est de se vouer corps et âme à son sport. Et je pense que c'est pas vrai. Il y a plein de contre-exemples. Mais tu vois, est-ce que finalement, faut pas mieux se dire, en fin de carrière, ok, bah, j'étais super heureuse, mais j'ai loupé quelques podiums que, bah, on saura jamais si j'aurais pu les avoir, tu ouais. vois. Mais je suis hyper heureuse et je suis trop contente de ce que j'ai fait. Plutôt que, d'être un peu l'archétype de l'athlète américain ou des pays de l'Est qui montre pas beaucoup d'émotions, qui s'est pas beaucoup amusé et qui a gagné mais qui s'est fait souffrir comme pas possible, tu vois.
Voilà, est-ce que la médaille à n'importe quel prix ou pas, quoi.
Ouais, c'est un peu...
Ouais, moi je préfère, c'est, j'ai pas envie de dire ça parce que je fais tout, je me donne à fond, je vis mes séances à fond. Voilà, je suis à fond dans ma prépa, vraiment. Mais c'est vrai que le bonheur pour moi, c'est pas.
Ouais.
Enfin, je veux du bonheur, quoi. C'est pas négociable.
Le bonheur n'est pas négociable.
Mais je pense que.
Bien dit, le bonheur, c'est pas négociable.
C'est ce que tu disais pour Kevin, par exemple. Il a trouvé son équilibre. Parfois, je regrette de pas avoir le même profil et que mon équilibre soit pas celui-ci aussi. Mais oui, je pense que mon équilibre, il est pas dans ma vie à 100%.
Ouais.
Je mange pas 800 mètres. Voilà, c'est pas le 800, c'est à l'entraînement et le reste, je fais plein d'autres trucs, quoi.
Ouais. Après, tu vois, aussi, ce qui est différent, c'est que lui, il a un sport où je pense il doit travailler beaucoup de temps.
Ouais, c'est ça.
Donc, c'est aussi peut-être dans sa personnalité où il faut ranger le cerveau un peu et.
Ouais, mais
et
lui,
se laisser un peu porter, tu vois.
Je suis en train de lire son livre d'ailleurs en ce moment.
Ok, d'accord. Il est bien.
Ouais, j'aime beaucoup. C'est super touchant parce que c'est une facette. Je découvre une facette que je connaissais pas de lui à travers les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on voit pas grand chose de sa vie privée et j'aime bien.
Ouais, on voit l'image parfaite, tu vois, de
ouais,
Kevin.
Il est clairement parfait sur Instagram et tout. Mais j'ai trouvé ça. Je trouve ça super intéressant et touchant. Je découvre vraiment quelque chose de très intéressant dans sa manière de parler de sa vie.
Okay.
Mais j'ai hâte d'en lire plus. Mais je sens qu'on n'a pas le même amour. Notre amour du sport, il est très différent.
Ouais, ok. Bah écoute, tu me donnes envie de le lire.
Oui, je recommande vraiment cette lecture.
Trop cool, trop cool. Non, mais en plus, si je veux lui en parler, il faut quand même que je lise son bouquin, c'est sûr. Il y a eu d'autres livres qui t'ont inspiré d'athlètes ou d'ailleurs pas d'athlètes.
J'ai lu le livre de Marie-José Pérec aussi.
Ok.
Et je me retrouve beaucoup plus dans le profil de Marie-Jo, même si bon, je suis à des années-lumière de son niveau de performance. Et oui, c'est quelqu'un qui aimait vivre, assez fêtarde finalement, qui aime rigoler. J'ai bien aimé, ouais, et même la manière dont
elle... Très indépendante aussi, peut-être, un peu comme toi.
Ouais, et puis j'ai bien aimé aussi sa manière de parler de son projet sportif. Elle avait l'impression que, enfin, dans son livre, elle dit qu'elle avait cette une sorte de voix, enfin, une vocation quoi. Elle savait qu'elle allait faire des médailles. Elle, par contre, elle savait vraiment, et elle l'a vraiment fait. Mais elle avait une voix qui, je veux dire, c'était son destin. Ça revient souvent dans le livre. Elle dit que c'était son destin quoi.
Ouais. Ben du coup, quand c'est comme ça, c'est un peu plus facile quand même.
Ouais. Mais moi, je sais pas, mais.
Mais elle avait. C'est ça aussi qui la rend un peu fascinante, ouais, c'est à la fois cette indépendance de vouloir faire ce qu'elle a envie, et même une veille des jeux, si elle a envie de bouffer une pizza, elle le faisait, et puis voilà quoi. Donc
ouais, je trouve que cette liberté, ça m'a aussi rassurée de me dire que même les grandes championnes comme Marie-Josée Pérec aimaient vivre quoi, faire la fête en dehors. Ouais. Enfin, et garder en tout cas parce que je pense que Kevin, je l'ai déjà croisé en soirée. C'est vrai que je reviens sur Kevin parce que je pense à ça. Mais elle, oui, elle a gardé elle a trouvé cet équilibre là dans la perf que je trouvais intéressant.
Ouais. Ouais, puis là, ouais. Mais du coup, Kevin sort. ça lui arrive.
Bah maintenant, je pense que quand je suis entrée en équipe de France, je l'ai déjà croisé en boîte de nuit. Hein. Mais depuis non, depuis sa médaille olympique, je l'ai plus jamais recroisé en soirée, non.
Ok. Ah ouais.
Non, je pense qu'il y a eu, je sais pas, il faut que je lise dans le livre, mais je pense qu'il y a eu peut-être
un switch,
je sais pas, mais ça a toujours été un grand champion, mais c'est vrai que sur les soirées de clôture des événements, on le voyait quoi.
Et maintenant non, même pas au jeu.
Non, mais avec le Covid, là,
avec
je
Tokyo,
sais pas.
Vous avez rien eu, ouais.
Oui, avec le Covid, je sais pas s'il a fêté sa médaille à Tokyo. Moi, j'y étais pas.
C'était bizarre ces jeux, non ?
Moi, ça m'a. Bah, c'était bizarre, mais comme moi, je suis un peu gênée face à la foule, je suis vite intimidée et tout. Le fait qu'il n'y ait pas de public, ça avait été génial pour moi, okay. Rassurant en fait. Et puis d'être.
C'est vrai, tu préférais ?
Ben, c'est pas cool pour les personnes qui risquent de se déplacer à Paris pour venir me voir courir, mais c'est vrai que je suis plus à l'aise dans un stade vide.
Ouais.
Je ressens moins la pression des spectateurs, je me sens. Ouais.
Ok.
Mais je suis hyper émotive, donc en fait, dès que, par exemple, quand je cours en France, c'est hyper, pour moi, c'est stressant parce que je sais que les gens me connaissent un petit peu en France, dans les stades. Du coup, je me mets encore plus de pression pour bien faire et je sens leur émotion, donc c'est particulier.
Ouais. T'es une éponge un peu émotionnelle.
Ah ouais,
et...
clairement. Du coup, je préfère courir à l'étranger où je sais que les gens n'ont rien à faire de moi. C'est plus facile.
Mais c'est marrant, bah tu vois, je reviens à moi à l'IA que j'ai pu rencontrer il y a pas longtemps et elle, tu vois, elle a ce truc où elle est très elle entend tout ce qui se passe, tu vois. Si là dans la pièce, s'il y avait des gens qui parlaient dans la rue, là elle les entendrait et ça la déconcentrerait vraiment énormément. Et du coup dans le sport, c'est un truc où elle me dit heureusement que elle a besoin en fait d'être à 100% que pendant quelques secondes, parce que sinon c'est hyper dur en fait de toute cette phase un peu médiatique que vous avez, parce que vous, c'est, il y a une mise en scène, vous rentrez, vous vous mettez à votre place, il y a la caméra qui passe, on dit votre nom, il y a l'arbitre qui juge, enfin tu vois, c'est tout un cérémonial quand même qui dure un peu, tu vois, qui fait monter un peu la pression, que qui doit être dur à gérer, tu vois, à ce moment-là
ouais, c'est horrible.
Moi,
c'est horrible. Parfois, j'ai envie de pleurer sur la ligne de départ, ouais.
Ah, c'est dur,
c'est,
quoi.
C'est, ouais. Mais en même temps, j'aime ça avec le recul quand j'y repense, mais c'est une pression que, en tout cas, moi, je suis anxieuse, donc c'est une pression énorme. Mais je sais qu'à Monaco, j'avais couru et j'ai vu les gens m'encourager et crier, Réré, allez, Réré, t'es la meilleure, tu vas y arriver. En plus, le départ mettait du temps à se mettre en place. Moi, j'étais sur ma ligne de départ. Dans ma course, il y avait les meilleurs mondiales. Et, je sais pas, c'est, j'ai envie de faire plaisir à tout le monde. J'ai envie de faire une belle course. Il y a toutes les émotions qui remontent et j'avais presque envie de pleurer, quoi.
Vas-y. Et, si on pouvait parler, tu vois, on est dans 2 ans et demi. Il y a tout le stade. Si on peut leur envoyer un petit message ou un petit truc pour que tu sois dans les conditions idéales, qu'est-ce que tu leur dirais ?
Bah, je leur dirais, c'est votre Réré qui vous parle. Soyez avec moi, je vous en supplie. Je vous aime, on s'aime, on a que de l'amour, go go go.
Pas de stress.
Non, pas de stress. Bah là, il y aura du stress, c'est sûr. Il y aura du, je pourrais pas contrôler, mais ce sera sûr et certain.
Tu penses pas que t'es sur la bonne voie pour réussir justement à kiffer cet instant?
Je travaille déjà sur moi là-dessus à fond pour essayer de le vivre de la meilleure des manières et d'en faire quelque chose qui va me porter plutôt que m'inhiber.
Mmh. Ouais.
Mais j'espère que j'aurai fait le travail nécessaire pour supporter cette pression parce que je pense, je le dis souvent et c'est magnifique les Jeux à Paris, mais ça risque de pas non plus être c'est pas vraiment un cadeau en fait. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Je vais être heureuse de le vivre si je me qualifie, mais c'est quelque chose qu'il faudra préparer.
C'est un cadeau pour le public et c'est un cadeau pour les grands gagnants, tu vois. Mais pour vous, les athlètes, c'est dur, quoi.
Pas tous, parce que je pense qu'il y a des athlètes qui adorent ça, se faire acclamer par la foule et tout. Ça peut. Mais moi, non, ça me fait pas cet effet-là. Ça va plus. Je suis assez timide, bizarrement.
Ouais.
Timide de corps, je veux dire. Je suis pas timide dans dans l'expression de mon corps et tout.
Non, je vois ce que tu veux dire.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Non, mais tu vas parler d'agoraphobie et tout, c'est méga impressionnant d'être sur la pelouse d'un stade.
C'est un truc de fou,
c'est un truc à apprendre, tu vois, et c'est tellement décorrélé, je trouve, de la performance, tu vois, cette gestion de ce moment-là, je suis sûr que, tu vois, les Jeux de Tokyo, c'était un bon exemple où il y a plein d'athlètes, tu vois, qui sont un peu, ou même les Jeux de Pékin, il y a plein d'athlètes qui sont transcendés aussi parce que c'était des conditions un peu particulières, quoi.
Ouais, mais tu vois, une fois j'avais été qualifiée, enfin, on m'avait proposé de courir au Stade de France, et j'en me suis fait tellement une montagne du truc parce que j'étais allée voir plus jeune Usain Bolt, j'étais dans le public, on était comme des fous et tout, j'ai refusé, j'y suis pas allée alors que déjà c'était une invitation de malade, mais parce que j'avais peur de courir devant tout le monde.
C'est vrai?
Ouais, j'ai pas su y aller, quoi. J'avais trop peur.
C'est le meeting de, le grand meeting de.
Maintenant, c'est à Charletti, donc le stade est plus petit. Et après, j'ai couru à Charletti. Mais quand c'était au Stade de France, c'était impossible pour moi de. Mais les Jeux, c'est au Stade de France. Je crois que ce sera au Stade de France, donc.
Mais c'est pas grave, on va se débrouiller, on va trouver quelqu'un qui pourra te faire venir sur le stade et tu pourras venir faire une petite séance de visualisation.
Il faudra que je fasse ça, c'est sûr.
Imaginer la foule et puis c'est pas grave, quoi. Tu vas trouver ton personnage, tu vas jouer ton truc et puis tu vas dérouler ta partition, tu vois. Moi, j'en suis sûr. Ça peut le faire. Ça va le faire, c'est sûr. Mais après, ce qu'il faut, ce qui est dur, c'est effectivement. Est-ce que tu penses que c'est plus dur pour...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Justement, pour ceux qu'on attend à 1000%, tu vois, où il faut absolument que... Tout le monde les voit déjà gagner.
Ah ouais, je pense que ça doit être énorme comme pression. Et je suis désolée, on va encore parler de Kevin, mais je trouve qu'en ce moment, je suis dans ma phase où je m'informe sur lui et tout, parce que je trouve ça, c'est le seul athlète qui a ramené une médaille aux Jeux Olympiques. Donc je pense que ça mérite, moi, en tant qu'athlète, de m'informer là-dessus. Et je me demandais d'ailleurs, cette pression qu'il devait avoir au jeu, parce que personne n'avait encore ramené une médaille. On savait que c'était une forte chance de médaille, donc il y avait énormément d'espoir sur lui.
Ouais.
C'est incroyable, je trouve. Même de faire deuxième dans des conditions comme ça, c'est énorme.
Ouais. Ouais, c'est vrai. Ça vous met pas dans une situation hyper confortable pour Paris, mais c'est sûr que ça va être cool. C'est une belle fête, au moins.
Oui.
On viendra à la soirée de clôture, si tu veux.
Ah ouais, trop bien, on va faire la fête. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des karaokés chez les coureurs de 8, alors, carrément.
Pierre, si tu nous entends, on y a un rendez-vous au karaoké qui est déjà prévu. Je viendrai. Pierre m'a lancé un défi d'ailleurs, il veut que je me lance dans les imitations moi.
Okay.
On a fait un concours d'imitation pendant qu'on enregistrait le podcast. J'ai été très nul comparé à lui. Donc je suis en train de m'entraîner à faire des imitations de Jacques Chirac, de Didier Deschamps. Donc il y aura ça en teasing du karaoké. Et toi, comment est-ce que tu lâches la pression? Pierre, il chante, mais...
Comment
est-ce que tu lâches la pression?
Je pense que je la lâche jamais, malheureusement. C'est, je suis une anxieuse, quoi. Donc, je la lâche jamais, elle fait partie de moi. J'essaie juste de la gérer pour pas qu'elle me mange, quoi.
Ok.
Les gens qui doivent m'écouter, ils doivent se dire, mais en fait, c'est un petit haricot, cette fille.
Non, mais t'es humaine, quoi. T'es humaine, on a tous nos trucs, quoi. On a vraiment tous nos traumatismes, nos névroses, nos petits combats internes. La seule chose, la seule différence, c'est que toi, t'en parles, tu vois. Mais sinon, on a tous ça, en vrai. Moi, j'ai exactement les mêmes. Enfin, je te le disais juste avant, là, de cette obsession de la performance, de rechercher ce qui m'aligne, de rechercher ce qui me rend heureux. Tu vois, c'est juste, toi, t'as fait cet effort-là. Et y a des gens qui le font plus tard dans leur vie et des gens qui le font jamais, quoi. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que beaucoup d'athlètes écrivent des bouquins. C'est quand même un peu pour se faire des séances de psy un peu rattrapées, tu vois.
Ou un peu après coup,
de rentrer un peu dans cette introspection, de se dire, bon, est-ce que je me regarderai pas un peu en arrière tout ce que j'ai fait, quoi. T'as pas demandé à Kevin d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il avait écrit ce livre ou...
Non, pas du tout.
Je lui poserai la question.
Non, je lui ai pas demandé, mais c'est vrai que je lui avais dit que j'avais acheté son livre et que j'étais contente de voir ce qu'il y mettait dans... Enfin voilà, j'ai vraiment senti qu'il se livrait et je lui avais dit que je trouvais ça génial, quoi.
Ok, cool. Mm. Tu voudrais écrire un livre, toi?
Non, mais déjà... Je me sens même pas légitime.
Non, mais je te vois bien l'écrire toi-même. Mm. Tu vois, là où beaucoup se font accompagner par un journaliste ou quelqu'un. Toi, je te vois bien l'écrire toi-même.
Bah, si un jour j'écrivais, c'est sûr que j'essaierais de l'écrire moi-même. Mais vraiment, je considère que je suis un grain de semoule par rapport à, enfin, dans l'histoire de mon sport, quoi. Enfin, pour moi, pour écrire un livre, je me sens pas du tout légitime, quoi. Vraiment.
Ok. Donc c'est plutôt un... Ok. C'est un souci de légitimité.
Bah oui. Pourquoi moi j'écrirais un livre alors que j'ai même pas marqué l'histoire de mon sport? Je trouve que c'est un peu... C'est prétentieux. De ma part, ce serait prétentieux de prétendre... d'arriver, salut, voilà, je vous ai écrit mon histoire.
Ouais, mais attends, t'es pas obligé de marquer l'histoire de ton sport pour écrire un livre.
Oui,
bien sûr. Il y a plein de gens qui te suivent, qui aiment bien qui tu es et qui te voit que à travers le prisme, tu vois, d'Instagram ou d'une émission de télé ou d'une course, et qui serait très curieux de savoir un peu ce qu'il y a derrière, tu vois.
Oui, alors ce serait plus un journal intime plus qu'une biographie, alors. Hein, mais
pourquoi pas, ouais.
Ouais, mais non, mais vraiment, déjà, j'aimerais vraiment faire quelque chose de très très bien dans ma carrière sportivement. Et peut-être que là, je me sentirais de pouvoir donner, enfin, expliquer mon ressenti ou quoi que ce soit. Mais vraiment, ouais, non, je trouve que
ça te soulagerait de faire un, au moins, enfin, de, je sais pas, quand tu dis faire un truc très très bien, mais attends, t'as eu des médailles européennes, t'as gagné plein de courses, je sais plus combien de fois t'as été championne de France. Enfin,
j'ai l'impression que dans la frise chronologique de l'histoire de mon sport, j'ai rien, j'existe pas, quoi, j'existerai si je m'arrêtais.
Attends, mais t'as pas le droit de dire ça, quoi.
Y
a pas que les légendes aussi, tu vois, ou en tout cas tu marques ta génération.
Tu lirais le livre d'un athlète
J'ai lu plein de bouquins d'inconnus. Ouais, après je lis beaucoup, tu vois, mais
ouais.
Tu vois, j'ai lu un type, le livre d'un bouquin, alors comment il s'appelle? Le livre d'un monsieur qui est sorti de prison et qui s'est mis à faire de la course à pied, tu vois, et qui explique à quel point la course à pied, en fait, ça te permet d'avoir un peu une routine de vie, une certaine hygiène, Et j'ai adoré, quoi. Ouais. Je retrouve, faut que je retrouve le nom du livre.
Ouais, mais tu vois, le mec, il a fait de la prison, il a un parcours extraordinaire, tu vois.
Tout le monde a des excuses.
Ouais.
Mais à la limite, tu vois, tu pourrais trouver un autre angle. The Journey to Happiness, tu vois, par exemple. Okay. Est-ce que... quand tu regardes Kevin, je sais pas, mais il y a plein d'autres athlètes, tu peux les regarder, tu peux te dire, ils ont pas l'air hyper heureux, tu vois, ou...
Ah oui.
Non, ça te parle pas?
Bah, non, parce que je trouve que dans mon sport, les gens sont pas particulièrement expressifs.
Ouais.
Dans les, enfin, ils expriment pas trop leur émotion, je trouve, c'est pas, sauf quand ils ont gagné, bien sûr. Mais quand ils perdent, j'ai jamais vu vraiment un athlète s'effondrer. Je sais pas, peut-être. Si, peut-être quand même. Ouais, je sais pas.
Ouais, on les voit juste sur la piste à ce moment où ils ont le pic d'adrénaline. Et puis après, ça redevient des gens un peu moins expressifs. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais c'est, tu vois, c'est aussi pour ça que t'es un peu, je trouve, une ovni dans ta discipline. Et que t'es vraiment différente. Et que c'est ce qui plaît, tu vois, aussi... aux gens qui te suivent, c'est ce côté que t'es pas comme justement ces personnes-là, pas très expressives, tu vois. Mais et ça je trouve qu'il y a une belle histoire à raconter. Alors faut trouver un titre, faudrait trouver un angle.
Bon, ce qui me rassure, c'est que j'ai au moins un lecteur.
Mais moi je lis beaucoup, donc forcément si t'écris un livre, je le lirai, quoi. Je te dis pas de en tout cas, il terminera dans ma bibliothèque, c'est sûr, et je le lirai dès que j'ai le temps, et je te ferai un retour. Maintenant qu'on s'est rencontrés, je le lirai, c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais, ouais, pour c'est quoi tes activités en dehors de la course à pied? Tu m'as dit que t'étais quelqu'un de très curieuse, que t'aimais toucher à tout, faire plein d'autres choses. Qu'est-ce que tu fais à côté que les gens savent pas forcément
Bah, je crois que les gens savent tout parce que je partage beaucoup.
Ouais.
Mais là, je me suis réinscrite à la fac et ça me prend énormément de temps et tellement de temps que je peux plus trop dessiner. J'adore coudre, j'adore faire plein. En fait, j'adore faire tout ce qui est créatif, tout ce qui est manuel, toutes ces choses-là, j'aime beaucoup. Donc là, tout mon temps maintenant, il est consacré à mes révisions.
ça fait très
et j'adore voir du monde aussi. Par contre, ça, je maintiens mes sorties à l'extérieur parce que ça, c'est important.
Ouais, ça sent que t'aimes bien connect to people, quoi, de connecter un peu avec les gens. Et ça manque pas d'ailleurs un peu la partie créative dans le sport. Il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de chiffres, de stats. Du coup, c'est une intelligence que tu nourris très peu, quoi, je trouve.
Bah, je sais pas, parce que on peut être créatif dans l'entraînement. Par exemple, j'ai un souvenir de stage où Pierre Ambroise, il était là et il fait son fartlek. Et je lui dis, mais Pierre, t'as pas de montre.
Ouais.
Elle est où ta montre? Il me dit, mais j'ai pas besoin de montre, moi. Et je trouve que ça, c'est de la créativité parce que, je sais pas, faut être quand même créatif pour se dire je vais faire mon fartlek, je vais déconnecter des allures et je vais faire mon truc.
Ouais.
Donc tu vois, il y a un peu de créativité quand même de se dire je vais vivre ma séance comme ça et je vais en faire quelque chose d'intéressant pour mon travail. Enfin, je trouve ça.
Ouais. Ah non, mais bien sûr, tu peux toujours mettre de la créativité,
ouais.
Mais c'est pas le premier truc qui est nourri, quoi. C'est ça que je veux dire.
Ouais, mais je sais pas, je suis pas hyper d'accord avec ça parce que je suis pas du tout sur les chronos. Enfin, moi, je veux mon chrono sur une séance test, mais je vais pas prendre mes statistiques. Tu vois, j'ai une montre. Si j'ai pas le kilomètre heure, c'est pas grave.
Mmh.
Tu vois, je vais pas mettre mes données. Plein d'abonnés m'écrivent en me disant ouais, tu t'es sur Strava, tu peux m'envoyer ton Strava. Je sais même pas ce que c'est que Strava. J'ai jamais eu Strava, je sais vraiment pas ce que c'est. J'imagine que c'est une application.
Ouais, c'est une application pour les coureurs à pied où t'enregistres tes séances, quoi.
Ouais, donc je suis pas du tout dans ce truc-là. Je suis vachement dans le ressenti, les émotions que je ressens à l'entraînement, toutes ces choses-là.
Ouais.
Plus que sur la stat pure, quoi.
Ouais, ok. Et non, mais je te challengeais sur la partie créativité, mais c'est sûr que tu peux en mettre, tu vois, ou même sur... Tu vois, je pense à Usain Bolt, je trouve que c'était créatif d'avoir un peu sa danse. Je pense à zut, j'ai oublié son nom, mais cette coureuse qui avait des cheveux toutes les couleurs avec bon, c'est très corporel, très physique, un peu narcissique, mais qui avait du vernis à ongles avec le drapeau des États-Unis. Je trouvais ça aussi une part d'expression culturelle et d'expression sociale qui était assez cool. Il y a plein d'autres choses, tu vois. Tu peux aller voir une marque et leur dire, est-ce qu'on peut co-créer des chaussures ensemble ou...
Bah, c'est sûr que si tu parles de créativité dans ce sens-là, on peut penser que je suis pas du tout... C'est vrai que je suis plus créative en dehors du sport dans ce cas-là, si c'est comme ça que tu perçois la créativité dans ce milieu.
Mais toi, tu le nourris. Enfin, ce que je veux dire, c'est que toi, t'es allé la chercher ailleurs.
Mais le truc, c'est que on est dans une culture en France où c'est mal vu, tu vois, de... Je pense, hein, c'est l'impression que j'ai de se mettre en avant, en France, hein, de se mettre en avant, de mettre des couleurs dans tous les cheveux, de mettre du rouge à lèvres. J'aurais l'impression que j'aurais pas le droit... j'aurais pas le droit à l'erreur de me mettre comme ça, de me présenter comme ça sur une course. Ouais. Donc, c'est drôle parce que le seul endroit où je suis extrêmement sérieuse, finalement, c'est quand on me voit à la télé et c'est même pas... je me reconnais même pas quand je regarde une course de moi. Je me dis, wow, c'est qui Je suis pas du tout comme ça dans ma vie du quotidien.
Ok. Ouais.
Même à l'entraînement, je suis pas quelqu'un d'extrêmement sage. Et je trouve que c'est l'image que je renvoie à la télé. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas.
Ouais. Bah, c'est l'image qu'on vous demande de renvoyer, quoi. On vous demande d'être parfait le jour J. Alors, il faut avoir beaucoup l'esprit de la gagne, mais il faut être humble. il faut être très souriant, mais il faut être sage. Il faut être fair play, mais il faut quand même avoir du mental et avoir envie de gagner, tu vois. Il y a beaucoup de contradictions sur ce qu'on vous demande. Effectivement, en France encore plus, tu vois, notamment sur l'humilité, tu vois. Moi, c'est un gros truc, je trouve, ça me saoule, tu vois, quand on reproche à des athlètes de se la péter ou d'être un peu trop exubérant. Ouais, mais enfin, si ça marche, si ça leur plaît, si c'est comme ça et tout, ouais, ça peut impressionner les autres, ça peut être désagréable à vivre pour les compétiteurs. Il y a certains publics, enfin certains adversaires qui peuvent ne pas bien le prendre. J'en parlais avec Jimmy Vico, tu vois, qui me racontait être dans la chambre d'appel avec tous ces bonhommes chargés en testostérone 30 minutes avant la course. Enfin, c'est un enfer, tu vois, quand t'es un peu timide, un peu discret, tu vois.
Mais si tu regardes les athlètes français qui passent à la télé, finalement, on est presque les plus sobres, je trouve.
Bah ouais, ouais.
Tu vois, Jimmy Vico, il aurait pu faire des petites danses avec ses muscles, comme on en voit souvent à la télévision, ouais. Et je trouve que c'est très sobre à chaque fois.
Ouais, sur le 100 mètres, c'est le plus sage.
ouais, bien sûr.
C'est le plus sage. Et ouais, tu vois, ça m'énerve qu'on n'autorise pas les athlètes français à s'exprimer un peu plus et de se mettre en confiance par rapport à leurs moyens d'expression et l'envie de gagner, quoi. Assumer l'envie de gagner. Tu vois, je trouve ça dommage. Donc, tu vois, si Cristiano Ronaldo, il avait été français, je pense. Tu vois, un type, il transpire la gagne. Ou même cette joueuse américaine, tu vois, qui a les cheveux courts et roses, la capitaine de l'équipe des États-Unis. Tu sais, ça te dit rien?
Non. Bon, une athlète?
Une joueuse de foot.
Ah,
une
oui.
Joueuse de foot. Mais comment elle s'appelle? Bon, zut, ça
me dit quelque chose, mais
je sais. La capitaine de l'équipe des États-Unis de foot, c'est enfin, c'est des personnes qui transpirent l'envie de gagner.
Mais
quoi.
Ça, c'est très américain, par contre.
Et c'est très américain.
Mais moi, même mes adversaires sur ma discipline, je me retrouve pas du tout en elles. Enfin, on se ressemble pas du tout. C'est pas les mêmes personnalités, le même style.
Ouais.
Ouais.
Ok. Et t'as des filles qui sont devenues amies, d'ailleurs, parmi tes compétitrices,
amies,
en dehors des Françaises.
Amine, non, mais il y a des filles avec qui on se témoigne beaucoup de respect parce qu'on se côtoie finalement souvent sur les compètes. De là à dire qu'on est devenus amis, non. Mais on s'envoie des messages de soutien. Quand il y a des grossesses, on est super contentes les unes pour les autres.
Ouais.
Mais c'est plus un respect, un profond respect, je pense.
Ouais.
Il y a un peu ce truc de « ouais, je sais par quoi t'es passé », tu vois.
Tu fais du 800, toi aussi,
t'as un peu
cette flamme, toi aussi, quoi.
Ouais, ouais.
Et tu l'as pas avec d'autres athlètes, tu vois, sur d'autres sports ou Si, j'imagine quand même.
Si, d'autres sports avec qui, des athlètes avec qui je m'entends très bien, c'est
ouais,
ça
ou t'as ah un, oui. Cette espèce de respect.
Mais bien sûr, une fille comme en France, comme Clarisse Agbenenou ou Enzo Lefort aussi, je les ai côtoyés à l'armée. C'est des champions que j'admire, que j'adore. En France, c'est plus facile aussi. À l'étranger, plus compliqué. Déjà, j'ai pas un anglais. J'ai un peu honte, mais bon, pourtant, je donne tout ce que j'ai pour apprendre l'anglais. Mais oui, j'ai tissé moins de liens avec d'autres sportifs, enfin même aucun lien avec d'autres sports à l'étranger.
D'accord.
Sauf dans le milieu du kite, éventuellement un peu.
J'en parle aux amitiés. Je voulais te poser la question parce que j'ai réécouté l'épisode que j'avais fait avec Antoine Bizet,
ouais.
qui fait du VTT. Freestyle de descente, j'ai oublié.
Du vélo en descente.
Ouais, du vélo de descente. Donc pour que les auditeurs se visualisent un peu, c'est des gens qui se mettent en haut de grosses montagnes et ils descendent ça en vélo comme des zinzins, quoi.
En faisant des tricks en l'air.
Ouais. En faisant des sauts et tout.
Ouais.
Et je lui ai dit, ouais, il y a une rencontre qui a changé ta vie. Et il m'a dit, ouais, c'est Renel. Et c'est comme ça qu'on était rentrés en contact et tout. Du coup, pourquoi il m'a dit ça?
Bah parce que on s'est rencontrés
dans un contexte particulier.
Voilà, on était tous les deux blessés.
Lui gravement en plus.
Lui, grosse blessure à la cheville.
Ouais, parce qu'il s'éclatait. C'est un sport très dangereux quoi. Il s'abîme tout le temps quoi.
Ah ouais vraiment. Et puis moi j'étais vraiment au fond du trou psychologiquement et troisième déchirure au solaire. Ça faisait plus d'un an que je faisais pas de compète. Donc j'avais un peu l'impression que tout le monde m'avait oublié, mais moi je croyais encore en mon truc. Enfin bref, j'ai rencontré Antoine, coup de foudre amical, vraiment gros coup de cœur. Vraiment c'était hyper intense en amitié quoi, c'était génial. Et surtout il m'a apporté aussi, on s'est apporté mutuellement parce qu'il a vu, je pense, qu'une athlète pouvait avoir ce truc un peu freestyle qu'il a. Et moi j'ai vu que qu'il y avait aussi beaucoup de rigueur dans les sports extrêmes quand même.
Ouais.
Mais qu'on pouvait faire du très haut niveau en ayant une âme ouverte à tout ce qui se passe à l'extérieur. Chose que je trouvais qui était pas très présente dans mon sport. Je trouvais que c'était trop fermé et je me retrouvais pas forcément avec je me sentais pas toujours dans mon univers en étant avec des gens de mon milieu en fait.
Ouais. Ah, donc là tu t'as rencontré un garçon qui est aussi curieux que toi et a envie autant d'explorer le monde que toi, quoi.
Ouais, vraiment, c'était génial. Finalement, j'étais déprimée d'aller au CERS et ça avait été trop cool, quoi.
Ok. Écoute, trop cool. Et toi, est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont changé la vie?
Ouais, bien sûr. Il y en a eu plein. Bon, dans le sport, tu veux dire, la question, ça va être ça?
Ça peut être tout. On peut parler de d'amitié, d'amour, de spiritualité, de. J'imagine que toi, t'en as plein.
J'ai fait plein de rencontres différentes. Et
ma question est mal posée. Je suis désolé. Je te pose la question, mais ma question est mal posée. Je suis désolé.
Pourquoi? Moi, je trouve pas.
De dire, est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a changé la vie alors que.
Il y en a plein.
Tout le monde. Ouais. Enfin, on est une somme de rencontres. Ouais. Donc.
Mais ça m'embête un peu de dire ça parce que j'en parle tellement et on va penser que c'est mon gourou alors que pas du tout. Mais déjà, ma psy, elle a été incroyable.
C'est marrant parce que t'as parlé de psy et de préparatrice mentale en
même
temps.
Elle fait les deux, elle fait tout en fait. Enfin, okay. Elle est compétente pour ça, elle est diplômée et tout. Mais du coup, on travaille la prépa mentale, mais elle va surtout travaillé sur moi et sur mon bien-être dans ma vie perso parce qu'elle part du principe que pour courir vite, il faut être bien, avoir des bases, des fondations solides. La prépa mentale, c'est des outils après que pour peaufiner tout. Enfin, pour c'est des détails d'organisation, des choses comme ça. Mais c'est pas du travail vraiment du travail profond en fait.
Ouais.
La prépa mentale.
Ouais. Ok.
Donc c'est super de pouvoir faire prépa mentale et travail psy.
Elle bosse avec d'autres athlètes?
Ah oui, plein.
Ok, d'accord. Trop cool. Bah, tu me diras son nom en off. Je suis toujours curieux.
Elle a écrit un livre aussi. Elle s'appelle Myriam Salmi.
Ah, attends, je note.
Mais elle a travaillé avec Teddy Riner. Il s'en cache pas du tout. Hein. Ça passe à la télé.
Mais ce qui est marrant, alors attends, puisque tu me dis ça, parce que c'est vrai que tu as t'es dit les gens, lui, il en parle très très ouvertement. Mmh. Toi, t'en parles très très ouvertement. Est-ce qu'il y a pas un truc avec cette dame que je dois absolument rencontrer, parce que
mais c'est une machine de guerre.
C'est tout le monde.
Elle est incroyable.
Bon bah voilà, ok.
Voilà, elle est compétente, mais c'est fou. Enfin moi, je suis arrivée à reculons, hein, vraiment le premier rendez-vous.
C'est vrai.
Ouais, moi j'avais ce discours, je disais les grands champions, ils naissent comme ça. On n'a pas besoin de voir les psys ça sert à rien. Mais vraiment, j'étais dans le cliché complet.
T'as bien changé. Hein.
Ouais, clairement. Et je voulais pas aller voir de psy. Et mon ancien coach m'avait dit, tu reviens pas au stade tant que tu vois pas quelqu'un.
Ah ouais.
Ouais, okay. C'était comme ça. Donc j'ai
donc
dit
au moins ils t'ont ramené vers ça quoi.
Ouais, carrément. Mmh. Et donc moi j'avais dit OK mais je veux voir la meilleure quoi. Dans le milieu du sport, je veux voir quelqu'un qui voilà, qui en jette quoi et du coup
OK.
Ouais, c'est bizarre. Mmh. Pardon, je suis désolée. Ça va ?
Non, t'inquiète, très bien.
Ouais, et du coup ça a changé ma perception du travail psy et je me suis rendu compte que j'en avais besoin en fait. Ouais. Je croyais que j'étais une dure à cuire, mais pas du tout.
Elle n'est pas si dure à cuire. Super fragile. Mais ok. Non, mais c'est trop cool, tu vois, de vraiment merci d'en parler librement parce que tu vois, moi je le dis assez ouvertement, mais je vais voir une psy depuis que je dois avoir 10 ou 8 ans. Mmh. Bon, ça a changé, j'ai changé de personne, j'ai déménagé, j'ai arrêté, j'ai repris et les gens me prennent un peu pour un zinzin à cause de ça, tu vois. Mmh. Notamment, tu vois, quand t'es ado, tu vois, tiens, pourquoi vendredi à la sortie des cours, tu viens pas faire un foot avec nous? Ah, bah, je vous rejoins après ma psy, tu vois, ça fait un peu bizarre.
Ouais.
Et moi, je l'ai toujours bien vécu. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un truc, notamment quand tu vas bien, il faut le faire, justement, pour entretenir ces choses qui font que tu vas bien et le faire durer. Et je pense que, enfin, moi, je suis intimement convaincu que tout le monde devrait faire un peu ce travail-là et que ça permet de changer la vie. Et c'est cool que tu, enfin, merci en tout cas d'en parler d'un point de vue positif de ça a changé ma vie, quoi. Genre, c'est une rencontre.
Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui est complètement hermétique à ça, il doit se dire, OK, donc la fille est complètement déséquilibrée. Mais c'est vrai que j'ai pu optimiser vraiment ma performance grâce au travail psy. Mmh. Et j'avance beaucoup plus vite dans tout ce que je fais, puisque je me connais mieux aussi, c'est trop intéressant, c'est hyper intéressant.
Ouais, c'est hyper intéressant.
C'est ça.
D'apprendre à se connaître, c'est passionnant. Écoute, trop cool. En tout cas, merci, je me permettrai de contacter Myriam pour savoir un petit peu ses secrets et comment est-ce qu'elle travaille. Puis ça m'intéresse un peu aussi, je suis curieux de... En ce moment, j'ai des copains qui me proposent de devenir préparateur mental ou qui m'ont suggéré. Donc, je me dis, tiens, pourquoi pas, ça peut être une idée dans mon vide fertile du moment où j'essaie de creuser. Là, on arrive un petit peu à la fin, mais du coup, j'ai mes petites questions un peu que je pose d'habitude. La question que j'aime bien poser, c'est quoi une journée parfaite pour toi?
Une journée parfaite, c'est une journée où je me réveille, il y a du soleil.
Ok.
Je suis bien réveillée. Je suis juste trop contente de me réveiller. Il y a un petit déj. Il y a un petit déj. Parfois, je me réveille, il n'y a pas de petit déj.
Ça. Et là, ça vient du mauvais pied, ça.
Voilà. Et, journée parfaite, bon, soit j'ai entraînement ou j'ai pas entraînement, mais juste je suis contente et quoi qu'il se passe, je sais que je vais passer une super journée, quoi. Okay. Juste une bonne journée, c'est une journée avec du soleil où je me réveille et je suis contente.
Ok. Voilà. Très cool. Qu'est-ce qu'on trouve dans ta playlist?
Bah, j'ai que des sons dont j'ai honte.
J'ai un truc à te dire après. Je t'avoue.
Ok.
Spoiler alerte.
Mais j'ai vachement d'électro années 2000, tu vois, les trucs, mais vraiment dont je peux pas être fière.
Alors attends. Eiffel 65.
Ah mais non, mais là, ça c'est un peu trop stylé, en fait. J'ai plus du Ocean Drive et tout. Je sais pas si tu vois.
Ah, je vois très bien. Du Gala.
Ouais, okay. Mais Gala, ça devient cool, tu vois.
Ouais, c'est vrai, c'était un peu populaire. Mais ouais, maintenant, ouais. Quand tu le réécoutes, tu te dis... Il y a le souvenir, mais il y a un petit côté un peu ridicule, tu vois.
Ouais, c'est sûr. Ouais.
Ok, Ok, trop cool. Et on trouve toi sur. Alors attends, je te fais ma petite confidence. tu pourras aller changer d'ailleurs. Le moment, tu laisses ou tu pourras changer. Mais je suis allé du coup sur Spotify et je voulais savoir si t'avais fait d'autres podcasts, tu vois. Parce que je sais que t'avais fait des interviews avec Cléo. Je me suis dit, mais tiens, peut-être qu'elle a fait des passages radio, des trucs. Et je suis tombé sur ton compte Spotify. Et je suis tombé... et je suis tombé sur une photo. Sur une photo de toi. Je pense que ça doit être festoche, un peu hippie et tout. Trop cool. Et là, je me suis dit, là, Renelle est très bon délire.
Mais ce qui est énorme, que je savais pas que...
Mais
Je maîtrise rien à Internet, en fait. Donc, je savais même pas que j'avais un compte Spotify. Il faut que tu me montres.
Et qui doit être connecté à ton truc Facebook. Du coup, il y a des photos de profil Facebook. Enfin bref. En tout cas, moi, c'est comme ça. Je m'en suis rendu compte aussi. Et j'ai vu qu'il y avait une playlist avec toutes les musiques de Walt Disney.
Ah bon?
Ouais, je te jure.
Ah, c'est marrant ça.
Et je te le montre juste après.
Ouais,
juste
que après. Tu me montres.
Donc je me suis dit, ah trop marrant. Et en plus, ça s'appelait Bonne Nuit. Et ça m'a fait mourir de rire parce que j'ai exactement la même playlist pour mon fils parce que c'est ce que je lui fais écouter pour qu'il s'endorme.
Est-ce que c'est celle avec les chansons sur Pocahontas là, c'est ça?
Ouais, exactement.
C'est trop drôle parce que jamais je pensais que quelqu'un allait tomber là-dessus.
C'était complètement hasard bienveillant, tu vois. donc ouais, je me permets de te le dire, on pourra couper ce petit passage si tu le veux ou je te file un petit coup de main pour modifier ton compte Spotify et ta petite playlist. Qu'est-ce qu'on trouve récemment sur ton Netflix?
Alors, comme je fais des études en psychologie, j'avais regardé une série qui s'appelait Babies sur le développement des bébés. En fait, ça reprenait tous mes cours et j'ai regardé ça après mes examens. C'est dommage parce que j'aurais pu avoir une bien meilleure note.
Zut. Donc là, il y a la petite confession de j'ai eu une très mauvaise note.
Et ça va, j'ai eu 10.
Okay.
Mes problèmes, c'est que j'ai eu un zéro. Donc, bon, en fait, c'est pas très, voilà. Et je regarde aussi, en fait, j'aimerais vraiment apprendre à parler anglais.
Ok.
Du coup,
tu regardes beaucoup de Netflix.
Je regarde Netflix et je regarde une série qui s'appelle Love is Blind.
Ok.
c'est une télé-réalité. Et je mets sous-titres en anglais. Je mets les voix en anglais, sous-titres en anglais. Et parfois, je m'amuse à reprendre les répliques, à parler à la place des gens.
Trop stylé. Genre, tu mets pause et tu fais... Oh yeah,
non, je parle en même Brian. Temps. Je fais tout le discours, tu sais, parce que je parle très lentement en anglais. Du coup, j'essaye de parler plus vite.
Ok, trop cool. Et Love is Blind, du coup. J'en ai pas entendu parler. Et du coup, là, on n'est pas du tout dans le sport. Là, on est dans le...
Non.
Dans l'ouverture. Trop chouette. Je prends ça. L'avant-dernière question que je pose, c'est si tu pouvais écrire sur un gros tableau un message que la terre entière lirait, et que tu avais un stylo et qu'on te dit tiens écris et la terre entière regarde, qu'est-ce que tu aurais envie d'écrire dessus?
Bah, c'est un peu nul, mais j'écrirais love en majuscule, mais qui devrait être lu love. Parce qu'en fait, à chaque fois que je fais un post, souvent, pas à chaque fois, mais je mets toujours le mot love. Je trouve ça trop cool. C'est un peu nul, mais je trouve que c'est trop puissant comme mot.
L'amour de soi, l'amour des autres.
Ouais, l'amour pour tout le monde, quoi. Du love. Je dis tout le temps du love.
Ok. Bon, ça serait ça. Mais très beau mot. Tu vois, comme quoi, il n'y a pas besoin de faire une grande phrase. Juste un mot, ça suffit. Désolé, c'est la vraie avant-dernière question. Qu'est-ce qui disent tes meilleurs amis de toi, ton plus gros défaut et ta plus grosse qualité?
Mon plus gros défaut, c'est que je pense que, mais c'est vraiment un défaut, je suis intransigeante, je suis dure en fait en amitié.
Avec toi-même un peu.
Je suis dure avec moi-même, mais je suis dure avec les autres aussi.
Ok.
Donc j'ai pas beaucoup d'amis, mais c'est vraiment des très très bons amis.
Parce qu'ils te pardonnent.
c'est un peu prétentieux de ma part, mais ça m'est jamais arrivé qu'on coupe les ponts avec moi parce que j'ai fait du mal à quelqu'un, parce que je vais toujours m'excuser ou je vais toujours, quand je sens que j'ai fait du mal, j'ai besoin de m'excuser ou de parler.
Okay.
Mais par contre, moi, j'ai pas de problème à couper les ponts avec quelqu'un qui m'a fait du mal, voilà.
Ok.
C'est ça. Et donc, je suis très dure en amitié, donc je suis très peu entourée, mais mon entourage, c'est de la bienveillance extrême, quoi.
Ouais. Ok. Bon, ça se ressent. Et la dernière question que je pose, c'est alors pour la petite histoire, tu sais, j'ai toujours voulu respecter la parité absolue sur le parmi les invités. Et ces derniers mois, je me suis un peu relâché, j'ai eu un peu trop de garçons, et je me suis rendu compte qu'en fait, quand je demandais une recommandation d'invité, souvent les hommes recommandaient des hommes, et souvent les femmes recommandaient des hommes aussi. Donc du coup, je vais te demander non pas une recommandation, mais deux, un garçon, une fille, qu'est-ce que tu me recommandes d'aller voir pour parler bonheur, bien-être, être bien dans ses baskets, gérer ses stress et aussi un petit peu ce qui est en dehors de la piste ou même en dehors de du sport en général quoi.
En dehors du sport aussi ?
Ouais, si t'as des gens intéressants ou avec qui je peux faire quand même un lien avec le sport, tu vois.
Je réfléchis il y a des athlètes que je veux dire Élodie Clouvel par exemple.
Ah ouais.
J'adore cette personne. J'aime vraiment sa personnalité, c'est quelqu'un
Moi je la connais que par les réseaux, je trouve qu'elle fait parfaite justement.
Bah justement moi, je trouvais aussi, mais j'ai la chance de pouvoir la côtoyer grâce à l'armée. Et c'est vraiment quelqu'un avec un cœur. Elle et son chéri, d'ailleurs, qui est aussi athlète de haut niveau, c'est des belles personnes que j'aime beaucoup. Et enfin, j'ai plein de noms en fait, mais même Clarisse, la porte-drapeau, notre porte-drapeau, c'est une personne incroyable. Enfin, c'est vraiment des personnalités qui m'ont marqué dans mon parcours d'athlète.
Okay.
Et que j'admire et que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est des belles personnes quoi. Mais comme Enzo, enfin il y en a plein quand même.
Ok. Et un garçon ?
En garçon, bien sûr, Valentin, donc le chéri d'Élodie. Et il faut que je réfléchisse parce que j'en connais. Est-ce que je peux regarder mon Instagram ?
Vas-y, ouais, si tu veux, tiens, allez. Pendant ce temps-là, je meuble. Et c'est marrant, t'as pas cité ton copain, mais j'aimerais bien lui en parler. Bah, je sais pas s'il est très podcast ou pas, mais
mon chéri.
Ouais.
Bah c'est vrai que
j'ai pas eu de kitesurfer.
Il est carrément.
En plus il fait un peu.
Et lui c'est mais après bon mais bien sûr c'est la plus belle personne du monde. C'est quelqu'un de très intéressant, très timide en plus.
Ok, ça marche. Moi j'irai creuser alors si c'est possible, si tu m'autorises.
Ouais ouais.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ok. Trop chouette. Mais écoute. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Je me suis, moi, je me suis régalé. Je sais pas si j'ai été trop intrusif. On a parlé de trucs tellement profonds.
Non, pas du tout. C'était une discussion agréable, je trouve.
Naturelle, ouais.
Puis j'ai bien aimé aussi que tu parles de toi, et c'est intéressant d'avoir ton retour sur tous ces sujets.
Mais c'est une question que je me pose. C'est est-ce qu'il est possible d'être un bon intervieweur sans te livrer un peu toi-même, tu vois ? Il y en a quelques-uns peut-être qui arrivent, mais. Ou après, peut-être que quand on voit leur contenu, il y a que du coup, c'est que coupé. Du coup, tu vois que l'athlète, machin, ou que l'invité. Mais je pense que t'es obligé de. Enfin, moi, dans une relation aux autres, je suis obligé de donner à l'autre. Pour, je suis obligé que ça soit un don mutuel, quoi, qu'on se parle. Je sais pas comment toi tu le sais, mais moi, je serais hyper mal à l'aise si effectivement, si derrière, il n'y avait pas un peu de répondant ou un peu de. Ah tiens, ça me fait penser à ça ce que tu dis, ou ah moi c'est comme ça que je vis, ou tu vois.
Mais... je trouve ça super agréable, surtout que j'ai pas cette, je sais que là quand on va couper les micros, j'aurais pas cette sensation de m'être vidée, d'avoir, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a eu un échange et ça c'est super intéressant aussi.
Ouais.
C'est pas juste une interview quoi, c'est cool.
Ouais, c'est.
C'est même pas du tout une interview, c'est un échange vraiment, donc c'était sympa.
Bon bah trop cool, ça fait c'est le plus beau compliment que tu puisses me faire. Donc après avoir mis un peu de soleil dans ma journée ce matin sur mon carnet de gratitude, et tu en mettras un peu pour la fin de la journée avec mon. Ou donc merci beaucoup. Je me suis régalé, j'ai passé un trop bon moment. Et écoute, je touche du bois pour que ce bonheur dure le plus longtemps possible.
Merci voilà. beaucoup. C'est
et gentil. Dieu sait que c'est un combat de tous les jours.
Merci.
Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.